RCF.
Nous poursuivons avec vous, Christine Pedotti, notre dialogue au sujet des femmes de l'Évangile qui tiennent une grande place auprès de Jésus. Dans votre livre « Jésus, l'homme qui préférait les femmes » paru chez Albin Michel, vous évoquez bien entendu la rencontre avec la Samaritaine au puits de Jacob, c'est dans l'Évangile de Jean. Alors c'est vrai que vous dites que ce texte, il a été commenté comme la rencontre du Messie avec une femme de mœurs légères. Et vous dites que ce jour-là, au contraire, Jésus a croisé une vraie théologienne.
En l'occurrence, c'est ce que raconte le texte, puisque c'est la plus grande conversation théologique de tous les évangiles. Jésus ne parle pas beaucoup théologie, il faut bien dire, il agit beaucoup. Il y a quelques grands discours de Jésus, en particulier chez Jean, mais une conversation théologique, c'est-à-dire cet échange dans lequel l'un parle, l'autre répond, et puis dans lequel il y a des interrogations, etc. On en a une trace dans l'épisode avec Nicodème, chez Jean. Et puis on a ce grand discours avec la Samaritaine.
Oui, où il est question de qui est le Messie, où est-ce qu'il faut adorer Dieu,
etc. Donc, parce que très souvent, en fait, cette femme est très... Il y a une sorte de mépris sur elle en disant elle n'a rien compris, il lui promet l'eau vive, elle croyait qu'elle allait lui donner de l'eau pour tout, enfin, qu'elle ne viendrait plus. Elle. Donc c'est vrai qu'il y a une première conversation.
Première lecture.
Niveau de lecture. Dans lequel, effectivement, il lui dit, moi, je te donnerai de l'eau vive. Elle lui dit, donne-moi cette eau, comme ça, je ne viendrai pas au puits. Et souvent, on s'arrête à cette lecture-là en disant, finalement, elle était quand même un peu sotte, hein. Elle se rendait pas bien compte de ce qui se passait. Mais finalement, c'est pas vrai, puisque elle va continuer à discuter pour savoir. Elle se dit, bon, puisque ce type a l'air de savoir de quoi il parle, si tu savais le don de Dieu, lui dit-il. Elle dit, ah, c'est un homme de Dieu. C'est le moment d'en profiter. J'ai quelques questions. Demandons-lui où l'on doit adorer Dieu. Est-ce que c'est là, etc. Et de façon absolument surprenante, Jésus va lui dire qu'il est le Messie. Je le suis, moi qui te parle.
Et c'est la seule fois qu'il le dit comme ça aussi directement.
Ah oui, ce qui est quand même absolument sidérant. À une femme étrangère, enfin tout d'un coup d'un judaïsme très dégradé par rapport au judaïsme classique.
Oui, les Samaritains sont considérés comme hérétiques.
Hérétiques par les Juifs de Jérusalem, voilà. Et alors la scène est assez amusante puisqu'on est en plein midi au puits. Pourquoi cette femme est-elle seule au puits? Mais le puits, c'est le lieu de la rencontre amoureuse par excellence. D'ailleurs, les artistes ne s'y sont pas trompés et ont toujours mis en scène cette rencontre de Jésus avec la femme de Samarie, avec une certaine sensualité entre les deux. Hein. Il fait chaud, il a soif, il lui demande de l'eau. Les disciples, d'ailleurs, s'en insurgent un peu et quand ils arrivent, ils se disent par devers eux. C'est d'ailleurs un étonnement dans la façon littéraire dont est composé le texte. Hein. C'est que Jean se fait l'interprète de ce que pensent les disciples, mais qui n'osent pas dire à Jésus en disant « mais qu'est-ce qu'il fait avec cette femme? Qu'est-ce qu'elle fait là ?» etc. Et puis ils approchent finalement et la femme va courir au village en disant « venez, il m'a dit tout ce que je suis ». Alors ce qui est terrible, c'est que les commentateurs disent « il lui a dit ses quatre vérités sur sa vie dissolue ».
Oui, le fait qu'elle avait eu plusieurs maris.
Plusieurs maris. Alors, il faut quand même dire les choses comme elles sont. On est dans l'évangile de Jean. Où rien n'est écrit par hasard.
Il y a de la symbolique tout le temps.
Il y a de la symbolique absolument tout le temps. Donc quand il rencontre cette femme au puits de Jacob, c'est-à-dire au lieu amoureux par excellence, c'est-à-dire le puits, ça n'est pas anodin. Donc il y a quelque chose qui se noue entre eux. Et puis effectivement, il y a une question de fidélité, de conjugalité, etc.
On apprend qu'elle a eu 6 hommes.
Elle a eu 5 maris. Et celui qu'elle a n'est pas vraiment son mari.
Ça en fait 6 au tout.
Ça en fait 6, c'est l'imperfection. Chez Jean, c'est toujours l'imperfection, c'est ce qui est imparfait, et qui doit s'accomplir dans le 7e.
Qui est Jésus?
Ben, le 7e, c'est Jésus, ça crève les yeux. Je veux dire, le véritable époux est celui qui est au puits, et c'est celui-là qu'elle vient de découvrir. Et donc, elle va courir comme une messagère, et Jean, pour nous aider à comprendre ça, va employer exactement les mêmes termes pour nous montrer la Samaritaine qui court vers le village, qu'il emploiera pour nous montrer Marie-Madeleine qui court vers les disciples pour annoncer la résurrection. Donc il y a bien la même annonce, elle part en hâte, elle court et elle va annoncer. Et ensuite les autres viennent, ils vont entendre Jésus et ils vont dire « maintenant nous croyons non pas à cause de ce que tu nous as dit, mais à cause de ce que nous venons de rencontrer ». Mais cette Samaritaine est un apôtre. Structurellement, elle est l'apôtre. L'apôtre, il faut se souvenir que c'est le missionnaire. C'est celui qui est envoyé et qui dit. Et c'est ça qu'elle a fait. Et c'est encore une femme.
Christine Pedotti, il nous faut parler de Marie, parce que Marie, c'est vraiment la figure féminine mise en valeur depuis le début du christianisme. Or, vous dites, dans l'évangile, il y a très peu de choses sur Marie.
Alors, d'abord, pas tout à fait depuis le début du christianisme, puisque la figure de Marie, elle n'existe quasiment pas dans les premiers temps de l'histoire des communautés chrétiennes. Et puis, finalement, il y a une sorte de montée en puissance à partir du moment où on va énoncer de façon théologique qu'elle est mère de Dieu, qui en fait est un dogme qui ne vise pas Marie, mais qui vise Jésus, c'est énoncé qu'il est déjà Dieu au moment de sa conception. Ouais. Donc, en cela, elle est mère de
Dieu. C'est le concile de
Éphèse, je crois.
Cinquième siècle,
me semble-t-il. Mmh. Voilà. Et puis, donc, la figure de Marie. Et puis, à partir de l'an 1000, surtout dans la... Alors, il y a des figures de Marie dans l'orthodoxie, abondamment. Et puis, nous, on va avoir une figure de Marie qui s'amplifie, en particulier chez les catholiques. Et qui n'a, il faut bien le dire, que peu à voir avec sa présence assez ténue dans les évangiles, où finalement on va la voir dans les synoptiques à deux reprises dans les récits de l'enfance et de la jeunesse, beaucoup chez Luc, qui nous donne en fait l'essentiel de ce que nous savons sur Marie, dans une vision qui est très allégorique, hein. Un tout petit peu chez Matthieu, mais la naissance chez Matthieu, c'est Joseph le personnage principal.
Avec la généalogie.
Voilà. Et puis ensuite dans les synoptiques, le seul moment où on va revoir Marie, c'est derrière une porte, dans la scène où en fait elle essaie de venir voir Jésus. Marc nous dit, elle vient avec la famille pour essayer de le récupérer, et il va lui dire, quand on lui dit ta mère, tes frères, tes sœurs sont à la porte qui te demandent, il va dire qui sont ma mère, mes frères, mes sœurs, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Et puis les deux grandes figures chez Jean, où en fait elle n'a pas de nom, elle s'appelle la mère du Seigneur, elle est présente à Cana et au pied de la croix.
Christine Pedotti, vous dites que la dignité de Marie de Nazareth n'est pas liée à ses entrailles ou à ses seins qui ont porté son fils, qui ont nourri son fils, mais à son accueil de la parole et à sa mise en pratique. On retrouve là une parole de Jésus qui dit, lorsqu'on vient le voir, quand on vient dire « mais heureuse la mère qui t'a mis au monde oui. », il dit « mais heureux surtout ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique ».
Tout à fait. Alors ça, c'est très étonnant, parce qu'on a là une scène, donc Jésus traverse la place d'un village, et une femme crie « heureuses les entrailles qui t'ont porté, heureux les seins que tu as sucés ». Et là, Jésus va répondre « bienheureux davantage ceux qui écoutent la parole de Dieu et les mettent en pratique ». Ce qui fait que finalement, la maternité charnelle de Marie est comptée, on est obligé de dire, pour rien par Jésus. Ce qui est compté pour quelque chose, c'est l'accueil qu'elle a eu de la parole. Parce qu'en l'occurrence, celle qui a accueilli la parole, qui l'a mise en pratique, c'est Marie, la toute première.
Et du coup, chacun d'entre nous qui tend vers ça.
Évidemment, chacun d'entre nous. Et donc, j'ai été chercher comment Jésus causait de maternité dans les évangiles. Chou blanc, il n'en parle pas. Il n'y a pas de figure maternelle dans l'évangile. C'est terrible à dire comme ça. Ça peut sembler étonnant. Il n'y a pas de figure. Alors, je me dis quand même, c'est pas possible. Si, j'en ai trouvé une. J'ai trouvé une grande figure maternelle dans l'évangile. Et paradoxalement, c'est un homme.
Qui est?
Mais qui est le père prodigue, le père du fils prodigue. C'est celui-là qui a les entrailles qui frémissent quand il voit le fils qui revient et qui va l'accueillir. Et d'ailleurs, les grands artistes ne s'y sont pas trompés, puisque Rembrandt, quand il peint le fils prodigue, lui donne une main féminine et une main masculine. C'est dire à quel point cette figure de la parabole de Luc sur la miséricorde est une figure à la fois d'un cœur de père et d'un cœur de mère qui accueille le fils qui revient. Donc il y a peu de choses sur la maternité.
Qui a pourtant été très mise en valeur dans l'histoire du christianisme.
Dans l'histoire du christianisme. Et je suis obligée de dire que dans ce monde d'hommes qui a si peu vu les femmes, s'est imposée une présence féminine. Il y avait quand même besoin de figures féminines. Et la figure féminine qui s'est imposée, finalement, c'est la figure de Marie. qui s'est imposée au détriment de toutes les autres, parce que finalement, elle a écrasé toutes les autres femmes.
C'est l'arbre qui a caché la forêt.
Oui, c'est l'arbre qui a caché la forêt, tout à fait.
Est-ce que vous dites aussi, c'est que Marie, on l'oublie, mais elle n'a pas rencontré son fils ressuscité, en tout cas, c'est pas marqué dans les évangiles,
non,
alors que Marie de Magdala est aux premières loges.
Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs très étonnant, puisque d'une certaine façon, même quand je disais que la dévotion à Marie au cours du deuxième millénaire, et on a par exemple cette très très belle image de la Pietà, de Marie qui récupère le corps mort de son fils, c'est une image apocryphe, elle n'est pas dans les évangiles. On a dans l'évangile de Jean une Stabat Mater, une mère douloureuse, debout,
qui tient debout.
Et cette très très belle image de Marie qui tient le corps de son fils mort, qui hante nos imaginaires, elle n'est pas présente dans l'évangile, elle n'existe pas. C'est une image apocryphe.
Elle appartient à ce qu'on dit, à ce qu'on appelle la tradition, c'est-à-dire que ça n'est pas scripturaire.
Non, c'est pas scripturaire. Elle est, voilà, on n'en a pas de trace. Mais la figure de Marie a d'une certaine façon dévoré toutes les autres images des femmes. Et d'ailleurs, ça n'est pas anodin, c'est que les femmes touchent beaucoup Jésus dans les évangiles. Elles le touchent, il se laisse toucher. Et je pense qu'il y avait quelque chose de dérangeant dans un monde très masculin, et qu'en plus dans un monde de clercs qui touchaient le corps de Jésus dans l'acte eucharistique, à avoir en même temps des femmes dans l'évangile qui touchaient le corps de Jésus. Il y avait une forme de concurrence, me semble-t-il. Et donc, une des façons de dépasser cette concurrence, c'était au fond de rendre le corps de Jésus non pas aux femmes, mais à sa mère, qui est une façon, je suis obligée de le dire comme ça, de désexuer la relation de Jésus avec les femmes. Jésus, dans l'évangile, on ne se raconte pas d'histoire. Jésus n'a pas d'épouse, il n'a pas de femme. C'est bon pour les mauvais romans. Mais il a une relation très sexuée avec les femmes. Et je pense que cette relation charnelle, du toucher, cette relation très sexuée...
Qui engage tout le corps.
Qui engage absolument tout le corps, a été vécue au bout du compte comme assez dérangeante.
Nous poursuivrons avec vous. Merci Christine Pedotti.